Bonjour à toutes et à tous. Je vois quelques nouveaux visages et j'aimerais vraiment vous souhaiter une chaleureuse bienvenue parmi nous. On est content de vous accueillir, de vivre ce culte ensemble, ce culte que nous sommes en train de rendre à Dieu. Je suis un peu encore sous le coup de l'émotion après la louange que nous venons de vivre. Comment a été votre semaine de votre côté ? Je suis reconnaissant, en tout cas, envers Dieu de me tenir devant vous pour aborder le texte de ce matin. Le texte qui est à la fois connu, vraiment connu. Exode 3, ça fait partie de ces textes qu'on connaît bien. L'épisode du buisson ardent. Et en même temps, un texte si riche. Et je voudrais commencer ce temps de prédication par la lecture de la parole de Dieu. Donc nous sommes dans Exode chapitre 3 et je commencerai au verset 1. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas ?» L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse ». Il répondit « Me voici ». Dieu dit « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte ». Il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. Je le fais. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Ébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. » Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Yébousiens, un pays où coule le lait et le miel. Ils t'écouteront. Tu iras avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir à moins d'y être contraint par une forte intervention. J'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. Je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple, et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains libres, vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne chez elle des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Lorsque nous rencontrons une personne pour la première fois, la première question est généralement « Comment tu t'appelles ?» Alors, pourquoi a-t-on besoin de ce genre d'informations ? Parce que le nom est rattaché à une personne. Lorsque nous parlons de quelqu'un, nous utilisons son nom. Pourtant, lorsque vous me rencontrez pour la première fois, je vais juste vous dire « Je m'appelle Philippe ». Et mon prénom ne vous donne pas beaucoup d'informations à mon sujet. Vous pouvez, à la rigueur, soupçonner que je sois français et que je sois né en France, ce qui est vrai pour les deux cas. Mais quand il s'agit du nom de Dieu, son nom qu'il donne à Moïse dit déjà beaucoup à son sujet. Et en même temps, c'est un nom qui reste mystérieux. Personne d'autre ne dit « Je suis celui qui suis ». Et je comprends que ça soit impressionnant pour un enfant. Je suis celui qui suis. Personne d'autre ne le dit. Ce nom est unique. Et pourtant, ce nom a du sens. Moi, je vous dis, Philippe, vous ne savez pas grand-chose sur moi. Dieu dit, je suis celui qui suis. Ça a du sens. Au chapitre 1 de l'Exode, nous lisons que le peuple qui descend de Jacob et de ses 12 fils s'est considérablement agrandi. Ce qui a suscité la peur chez le Pharaon. Les Israélites sont devenus puissants. Le pharaon a alors cherché, par tous les moyens, à endiguer cette croissance. Et l'un des moyens était de réduire ces Hébreux en esclavage. Ils vont travailler durement pour les Égyptiens. Ça, c'est le chapitre 1. Chapitre 2, la situation des Israélites est toujours la même. Ils souffrent. Ils souffrent jusqu'à pousser des cris. Et en même temps, pendant que les Hébreux souffrent, alors que l'ordre du roi d'Égypte était de jeter tout garçon hébreu dans le Nil afin de le noyer, Moïse est retiré de ce même fleuve et il est recueilli par la fille même du pharaon. Quelle ironie! Et plus tard, en grandissant, Moïse a voulu jouer les justiciers. Il finit par tuer un Égyptien parce qu'il a voulu défendre un de ses frères, un Israélite, et il doit fuir l'Égypte. Mais le chapitre 2 se termine sur une lueur d'espoir. Dieu voit. Dieu entend la souffrance de son peuple. Dieu comprend leur situation. Et l'auteur ne nous dit pas ce que Dieu va faire à ce moment-là, à la fin du chapitre 2. Mais nous nous doutons bien que Dieu ne va pas ne rien faire. Il voit, il entend, il comprend la situation et il ne va pas rien faire. Et c'est le chapitre 3 qui nous révèle le projet de Dieu, l'intervention de Dieu en faveur de son peuple, comme nous l'avons lu. Bien plus, comme nous l'avons évoqué en introduction, Dieu se révèle à Moïse et lui communique son nom. Dieu se fait connaître. Il veut établir une relation non seulement avec Moïse, mais aussi avec le peuple qui s'apprête à délivrer. Et cela nous rappelle que le Dieu qui se révèle en Exode 3, il y a bien longtemps de cela, 3500 ans avant, s'est aussi révélé à nous par Jésus-Christ. Nous aurons l'occasion d'en parler. Et c'est une vérité très simple que j'aimerais dire ce matin. Pour connaître Dieu, nous avons besoin de sa révélation. Si nous voulons affirmer que nous connaissons Dieu, nous avons besoin de connaître sa révélation. Nous avons besoin de savoir qui il est d'après ce qu'il dit qu'il est. Nous avons besoin que Dieu nous dise qui il est. Si tu ne t'appuies pas sur ce que Dieu dit de lui-même, alors tu ne connais pas véritablement Dieu. C'est en fait un Dieu que tu imagines, un Dieu que tu te fabriques, mais pas le Dieu de la Bible. Si tu ne t'appuies pas sur les vérités, sur ce que Dieu dit de lui-même, tu ne connais pas véritablement Dieu. Pour connaître Dieu, pour être en relation avec lui, nous avons besoin qu'il se révèle à nous, qu'il fasse ce pas vers nous. Et je vous propose de regarder comment Dieu se fait connaître en Exode 3. Et je prends le risque ce matin de ne pas vous proposer de plan, Pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment inhabituel. Il y a toujours un plan en 3 parties, 4 parties, parfois 5. Moi, je ne vous propose pas de plan pour cette fois-ci, mais je vous propose de suivre le texte tel que Dieu l'a inspiré à Moïse, qui est l'auteur du livre de l'Exode. Et juste avant d'aller plus loin, précisons que le chapitre 3 n'est que la première partie de ce récit de vocation. Parce qu'il faut lui ajouter le chapitre 4 pour voir qu'effectivement, Moïse va finir par répondre à l'appel de Dieu, même si ça n'a pas été sans résistance. Donc il faut bien voir cet ensemble, chapitre 3 et chapitre 4. Et nous, aujourd'hui, ce matin, on va juste se contenter de la première partie. Nous verrons la suite dans 2 semaines. Je disais tout à l'heure que Moïse avait fui l'Égypte. Il a de nouveau échappé à la mort, et cette fois-ci, c'est un prêtre de Madian qui l'a recueilli, qui l'a accueilli dans sa famille. Moïse n'a certes plus les privilèges de la cour du Pharaon, et à présent, il est berger. Et on peut y voir sans s'y tromper que ce travail le prépare déjà à une tâche bien plus difficile, être le berger, le conducteur de tout un peuple. Mais pour l'instant, il garde un troupeau, le troupeau de son beau-père. Il est berger. Et c'est au milieu de son activité pastorale que Dieu décide de se révéler à lui, à Horeb. Est-ce que Horeb, ça vous dit quelque chose? Est-ce que ce nom résonne pour vous? Est-ce que cela fait écho à d'autres textes, peut-être, dans la Bible? Horeb. Certains disent qu'il s'agit du mont Sinaï, que c'est l'équivalent du mont Sinaï. Et d'autres disent, et je ne vais pas trancher le débat, mais d'autres disent qu'Horeb et le Sinaï, eh bien, sont en fait dans la même région montagneuse, dans le même massif, mais qu'il n'y a pas une équivalence totale entre Horeb et le Sinaï. En tout cas, le point le plus important dans tout ça, c'est que la montagne qui nous est désignée ici, c'est la montagne de Dieu. Et nous lisons au verset 2, « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. » Et Moïse, bien sûr, attiré par cette curiosité, ce phénomène surnaturel, il veut voir de plus près. Et nous lisons au verset 4, « L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. L'Éternel appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Au chapitre 1 et 2, Dieu était très peu mentionné. Il paraissait presque absent. Mais là, ici, au chapitre 3, il ne fait aucun doute que Dieu manifeste concrètement sa présence. La discrétion des premiers chapitres laisse place à une révélation qui fait peur. En tout cas, devant cette apparition divine, Moïse a peur. Et ne croyons pas que nous n'aurions pas eu peur à sa place. D'ailleurs, un peu plus tard, au chapitre 20, lorsque Dieu prononce les 10 paroles, les 10 commandements, et que le peuple entier rassemblé devant la montagne entend la voix de Dieu, voit le feu, la fumée, les éclairs, le peuple, nous dit le texte, a peur. Oui, quand Dieu manifeste sa présence, ça fait peur. Alors tout à l'heure, on a chanté à propos de la présence de Dieu, mais si Dieu effectivement manifestait sa présence comme il le fait là, ça fait peur. Ça fait peur, en particulier pour des pécheurs. Parce que celui qui se révèle à nous est un Dieu saint. Ce buisson ardent, qui n'est pas consumé dans le feu, est suffisamment fascinant pour attirer l'attention de Moïse. Et en même temps, comme le suggère un commentateur, il met aussi à distance. Après tout, il s'agit de feu. Nous avons tous expérimenté à la fois cet attrait pour le feu. Le feu nous attire, on a envie de s'approcher, comme lors d'un feu de camp par exemple. Et en même temps, cette distance pour notre sécurité, en fait. On ne veut pas trop s'approcher du feu. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On brûle. Dieu qui se manifeste par un feu, c'est déjà pour dire qu'on ne peut pas l'approcher si facilement. Vous avez déjà pensé à cela? Dieu qui se manifeste par un feu montre déjà par là qu'on ne peut pas s'approcher de lui si facilement. Comme le feu, on risque de se brûler. Et là, bien pire devant Dieu. Et cela nous est confirmé au verset 5, si vous regardez. Quand Dieu défend à Moïse d'aller plus loin. Cette terre est sainte. Précisément parce que Dieu est présent. C'est pour ça que cette terre est sainte. Dieu est là. Retire tes sandales. Ne t'approche pas avec la saleté du désert. Dieu est là. Et c'est pour ça que cette terre est sainte. Et on ne vient pas avec la saleté sur un lieu saint. Dieu enseigne déjà à cet endroit qu'il est un Dieu saint. Et le peuple plus tard devra aussi l'apprendre. Parce que Dieu défendra aussi au peuple lorsqu'il aura sorti d'Égypte, qu'ils seront rassemblés autour de la montagne. Dieu dira qu'il ne s'approche pas trop près de cette montagne. Sous peine de mourir. C'est ce que nous lisons en Exode 19. Dieu est aussi redoutable qu'un feu. En fait, bien davantage. Mais si on utilisait la comparaison, il est aussi redoutable qu'un feu. Et il demande aux êtres humains de respecter sa sainteté. Dieu poursuit, verset 7, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays. » Un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. La semaine dernière, Clément, qui prêchait sur le chapitre 2, nous a rappelé ce Dieu compatissant. Vous ne trouverez pas, en fait, de plus grande compassion pour les hommes qu'auprès de Dieu. Même la personne la plus compatissante sur cette terre a peu de compassion comparée à ce que Dieu peut éprouver à l'égard de l'humanité. Dieu voit la souffrance. Dieu voit l'oppression qu'exercent les Égyptiens sur les Israélites. Il voit, mais il entend aussi leurs cris. Et le Dieu qui sait tout dit aussi, « Je connais ces douleurs. » Il voit, il entend et il connaît. Dieu n'a pas besoin d'éprouver cette souffrance pour comprendre cette souffrance. Il connaît leur douleur. Dieu n'a pas oublié son peuple. C'est pourquoi il annonce qu'il intervient. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il compte délivrer son peuple de toute cette souffrance, de tout cet esclavage. Il n'a pas oublié la promesse qu'il avait faite à Abraham autrefois, notamment la promesse de lui donner un pays, à lui et à ses descendants. Celui qui nous est décrit au verset 8. C'est ce bon pays, ce vaste pays, un pays où coule le lait et le miel, un pays où le peuple ne manquera de rien. Non seulement Dieu est compatissant, mais il est aussi tellement bon. Il les sort de la misère pour les amener dans un bon pays. Et il le redira encore un peu plus loin. Je lis déjà le verset 17. Hop. Il dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. J'aimerais qu'on puisse prendre simplement quelques secondes pour réfléchir à cela. Dieu intervient à ce moment-là, alors que son peuple souffre. Le peuple ne peut pas s'en sortir. Mais Dieu intervient, il souffre et il veut l'amener où ? Dans un bon pays, où ils auront tout ce qu'il faut. Certes, peut-être qu'en Égypte, ils pouvaient manger à peu près de tout, mais ils n'avaient pas leur liberté et ils souffraient. Mais Dieu veut sortir son peuple de cette misère pour les amener dans un bon pays. J'ai essayé de trouver un équivalent, mais ma comparaison sera peut-être imparfaite, mais c'est comme si vous vous retrouviez en prison, peu importe que ce soit de manière méritée ou pas, en prison, vous souffrez en prison, quelqu'un vous libère de cette prison, vous fait sortir de cette prison, non seulement il vous libère de cette prison, il vous permet de sortir, mais il vous offre aussi un travail, il vous offre aussi une maison, peut-être même qu'il vous trouve un conjoint, il vous donne tout ce qu'il faut. Comparez la situation que vous aviez au départ et ce que Dieu si on suit la comparaison, ce que Dieu donne. Il n'y a aucune comparaison, en fait. Tellement Dieu est bon. Parce que la délivrance des Israélites préfigure une délivrance plus grande, nous pouvons voir que Dieu n'a effectivement pas changé. Il a eu compassion de nous, qui étions complètement perdus, livrés à nous-mêmes, morts spirituellement. Mais la bonne nouvelle, l'évangile, c'est qu'il est intervenu. Dans son plan d'amour et de grâce, il nous a libérés d'un esclavage qui est plus terrible que celui des hommes, l'esclavage du péché. Il nous a libérés de cet esclavage pour que nous puissions être à son service. À la croix, Jésus porte nos péchés, il subit la condamnation qui devait être la nôtre. Christ nous obtient le pardon de toutes nos fautes, il nous libère de notre condition de condamnés en prenant notre place. Il nous offre l'occasion de vivre une vie nouvelle, différente, qui plaise à Dieu. Et non seulement, parce que ça ne s'arrête pas là, si on veut continuer un petit peu le parallèle avec ce que Dieu est en train de dire au verset 8, non seulement Dieu nous libère du péché, mais il nous promet une terre, une nouvelle terre et des nouveaux cieux. C'est vrai ou pas? Et dans cette vie-ci, nous sommes en chemin vers notre terre promise. Une terre où nous ne manquerons de rien, une terre où nous ne souffrirons plus, complètement libérés du péché et de ses conséquences. Quel que soit ce que nous vivons à l'heure actuelle, et je ne connais pas toutes les situations particulières qui sont dans cette assemblée, mais je sais que certains passent par des moments peut-être difficiles ou de doute, mais quel que soit ce que nous pouvons vivre à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas dire que Dieu n'a pas été bon envers nous. Dieu a manifesté toute la bonté que l'on trouve dans ce texte par Jésus-Christ, en nous libérant, en nous promettant une terre. Nous sommes dans cette situation-là, comme les Israélites. Et écoutez ce que dit l'apôtre Paul lorsqu'il décrit notre nouvelle condition. Romains chapitre 6, versets 20 à 22. « En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Autrement dit, vous faisiez ce que vous voulez. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, et en fait, il est préférable d'être esclave de Dieu que esclave du péché, vous avez pour fruit, dit l'apôtre Paul, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin, la vie éternelle. C'est ce que Dieu a fait pour nous en nous libérant de notre esclavage du péché, avec comme fin, la vie éternelle. Dans notre texte, j'aimerais encore souligner un détail. Dans notre texte, au verset 8, Dieu dit « Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens. » Alors, on peut dire, c'est peut-être de manière imagée que Dieu le dit, ou pourtant, effectivement, il intervient. « Je suis descendu. » Mais pour nous, qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu est littéralement descendu en la personne de Jésus, afin de nous sauver, afin de nous délivrer de la domination du péché et de Satan. Ce que Dieu dit là annonce déjà d'avance ce que Dieu va réellement faire, descendre pour libérer son peuple de l'esclavage, du péché. Et là, il va y laisser sa vie avant de revenir d'entre les morts ressuscité, triomphant, glorieux. Est-ce que ça, c'est pas merveilleux? Est-ce que c'est pas merveilleux ce que le Seigneur a fait pour nous? Revenons à Exode 3, verset 10. « Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Maintenant. C'est le temps de l'action. Maintenant. C'est maintenant que le sauvetage commence. La semaine dernière, on a rappelé, depuis tant d'années, les Israélites ont souffert. Mais maintenant, en hébreu, « Atta », maintenant, Dieu va intervenir pour les libérer. Et c'est pour ça que c'est répété deux fois. « Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi », verset 9. « Maintenant », verset 10, « vas-y, je t'enverrai. » Maintenant, c'est le moment du salut. Ça rappelle peut-être un petit peu, moi je ne veux pas trop développer là-dessus, mais ça rappelle peut-être un petit peu le aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour où Dieu fait grâce. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le aujourd'hui, le maintenant. Là où nous attendrions peut-être un Moïse qui reprend vie, après tout ce qui s'est passé, nous avons au contraire un Moïse qui est hésitant, qui en fait présentera 5 objections à Dieu avant de céder. Et dans le texte de ce matin, nous en avons 2 déjà. Moïse dit, d'abord, il demande « Qui suis-je ?» Dieu a dit tout cela. « Mais qui suis-je, moi ?» Et puis il demande aussi « S'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je » Moïse, qui n'a pas hésité à défendre un frère israélite face à un Égyptien, ne se sent pas prêt à assumer la mission que Dieu lui confie maintenant. « Qui suis-je ?» demande Moïse. Et Dieu répond au verset 12 « Je serai avec toi. » Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse demande « Qui suis-je ? » Et Dieu répond « Je serai avec toi. » Dieu ne dit pas à Moïse qu'il a assez de force en lui et qu'il va y arriver. Dieu dit plutôt « Je serai avec toi. » Et il ajoute un signe pour que Moïse se rappelle que c'est bien Dieu, effectivement, qui a pris cette initiative par rapport à tout ce qui va se produire. Et Dieu répète que son peuple sortira de l'esclavage, au verset 12. Dieu répète cela. Et avec Moïse, ce peuple viendra sur cette montagne pour servir Dieu. Dieu annonce d'avance ce qui va se passer. Dieu annonce d'avance que la mission de Moïse va réussir. Ça veut, alors, bien sûr, cette mission va réussir, mais ça ne veut pas dire que ça va être facile. Mais ça va réussir. Dieu assure à Moïse qu'il sera avec lui. Et ce n'est pas comme nos promesses faillibles quand nous disons à quelqu'un « Je serai toujours là pour toi ». Parce que cette promesse-là, elle n'est pas éternelle. Il y a parfois des circonstances qui nous font rompre ce genre de promesses. Parfois, une amitié qui rompt. Je serai toujours là pour toi. Non, c'est une promesse qu'on n'est pas sûr de tenir. Mais Dieu dit, je serai avec toi. Dieu promet sa présence aux côtés de cet homme qui se sent si faible. Et Dieu dit, je serai avec toi. Dieu n'indique pas jusqu'à quand il sera avec Dieu. Dieu ne donne pas de limite à ce qu'il dit là. Il ne dit pas jusqu'à quand. Il ne dit pas « Je serai avec toi jusqu'à ce que vous veniez sur cette montagne et après, au revoir. » Non, il dit « Je serai avec toi, tout simplement. » Voilà la réponse de Dieu à un homme hésitant, peu sûr de lui. Et Tim Chester, un commentateur qui a écrit un commentaire sur l'Exode, écrit à propos de ce verset « Moïse n'a pas besoin de travailler son estime de soi. Il a besoin de prendre davantage conscience de la présence de Dieu. » Moïse n'a pas besoin de travailler son estime de soi. Il a besoin de prendre davantage conscience de la présence de Dieu. Comme ce que nous avons chanté ce matin, la présence de Dieu. Au fond, ce qui compte, ce n'est pas de savoir qui est Moïse et s'il est capable ou non d'accomplir cette mission, mais c'est de savoir que Dieu sera avec Moïse. Ce qui compte, c'est Dieu. Ce n'est pas d'ailleurs une parole qui nous est étrangère. Parce que si nous avons placé notre confiance en Christ, si nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons la même assurance que Dieu est avec nous. Jésus lui-même est Dieu avec nous. Et Jésus lui-même dit, « Je suis avec vous tous les jours. » Ce qui est le privilège de Moïse, ce qui sera aussi le privilège du peuple plus tard, est aussi le nôtre. Dieu est avec nous. Ce qui est intéressant de relever, c'est que Dieu assure sa présence aux côtés de Moïse dans le contexte de la mission qu'il lui confie. Il lui confie une mission, il lui dit « Je serai avec toi ». De même, Jésus assure sa présence à nos côtés dans le contexte du mandat missionnaire. Il nous confie une mission à savoir faire de toutes les nations des disciples. Et il ajoute cette promesse, je suis avec vous tous les jours. Je trouve que ce parallèle est intéressant. C'est-à-dire que pour des missions de grande envergure, nous pouvons être assurés, mes amis, que Dieu sera avec nous. Tu n'as pas besoin d'attendre le dimanche pour être dans la présence de Dieu. Chaque jour, c'est lui qui est présent à tes côtés. C'est lui qui est présent avec toi dans tout ce que tu vis. Et lorsqu'il s'agit peut-être d'accomplir la mission qu'il donne, sache qu'il est avec toi. Lorsqu'il s'agit de pouvoir témoigner de notre foi, d'annoncer l'évangile, sache que Dieu est avec toi. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Et je pense que ça nous donne un peu plus de courage lorsqu'on considère cela. Moi, ça m'aide aussi lorsque je prêche. De me dire que lorsque je prêche la parole de Dieu, lorsque je prêche l'évangile, Dieu est avec moi. Et je ne dis pas cela pour me vanter ou quoi que ce soit. Je dis cela en m'appuyant sur ce que le Seigneur dit lui-même. Et Moïse pose une deuxième question. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Là aussi, Moïse, il est encore dans l'objection, il n'est pas prêt encore à y aller. Il dit, bon, d'accord, tu es avec moi, mais si je vais vers eux et qu'ils me demandent ton nom, qu'est-ce que je dois leur répondre? Apparemment, le fait que Dieu promette sa promesse ne suffit pas à leur assurer. Et c'est vrai que Moïse a déjà été rejeté par les siens, donc il n'est pas très serein lorsqu'il s'agit de revenir vers son peuple. Mais s'il ne revient pas de son propre chef, qui doit-il annoncer? Quel est le nom de celui qui l'envoie? Et dans tout ce chapitre qui concerne la révélation de Dieu, nous arrivons probablement au point culminant. Dieu va donner son nom. Oui, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est un Dieu de relations, ça on le comprend bien. Il est aussi un Dieu qui fait alliance avec ses hommes. Il est aussi un Dieu qui a fait des promesses à ses hommes et à leurs descendants. Oui, tout ça c'est vrai. Et Dieu le rappelle lorsqu'il se présente au début. Mais il donne une nouvelle réponse ici au verset 14. Je suis celui qui suis. C'est vrai que si on connaît déjà ce texte, on se pose peut-être plus la question. Je suis celui qui suis, oui, d'accord. Mais déjà, en français, techniquement, c'est un peu dur de comprendre ce que ça veut dire. Je suis celui qui suis. Certains traduisent, pour que ça sonne peut-être mieux à nos oreilles aussi, je suis celui qui est. D'accord ? Ou je suis qui je suis. Là, on comprend déjà mieux. Mais je suis celui qui suis, pour moi qui suis prof de français, ou qui l'a été en tout cas, ça chatouille un peu l'oreille, quoi. Mais pourtant, c'est ce que Dieu dit. Je suis celui qui suis. Si je vous demande une définition de Dieu, il est fort à parier que vous allez trouver l'exercice difficile. Comment définir Dieu ? En trois mots. En quelque sorte, Dieu se définit par lui-même. Je suis celui qui suis. Il se définit par lui-même. Il n'a pas besoin que quelqu'un d'autre le définisse. Il se définit par lui-même. Il est. Point. Il sera. Point. C'est ainsi que l'on a tenté de traduire le nom de Dieu, l'Éternel. L'Éternel. Il est ou il sera. Non pas seulement pour parler de son éternité, mais pour dire en fait qu'il est l'être par excellence. Celui qui se présente comme je suis n'a pas de commencement. Depuis toujours, il est. Point. Si Moïse n'a pas été rassuré par la seule parole « Je serai avec toi », il devrait au moins être convaincu par cette révélation « Je suis celui qui suis ». Seul Dieu peut dire cela. Et vous vous rendez compte que quand un homme ose le dire, on veut tout de suite lui jeter des pierres. Vous voyez à quoi je fais allusion ? C'est ce que nous lisons en Jean chapitre 8, versets 58 et 59. Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis ». Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Pas de doute que lorsque Jésus dit cela, il donne son identité. Il est « je suis ». Il est Dieu. Et c'est pourquoi les autres ont envie de lui jeter des pierres, parce qu'ils pensent qu'il blasphème. Je suis. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour connaître Dieu, nous avons besoin de sa révélation. Et ici, Jésus révèle Dieu, en se présentant comme celui qui a donné son nom à Moïse. Quand il dit « je suis », il dit « c'est comme le Dieu qui est dans Exode 3 et qui dit à Moïse, qui donne son nom à Moïse, « je suis, c'est moi ». L'Éternel. Parfois nous disons « Yahvé » ou « Yahweh ». C'est ce nom-là dont il s'agit. C'est ainsi que Dieu veut qu'on se souvienne de lui de génération en génération. Et c'est ainsi qu'il se révélera au peuple d'Israël. Lorsqu'il sera sur cette même montagne, Exode chapitre 20, il commencera les 10 paroles, les 10 commandements en disant « Moi l'Éternel, ton Dieu ». C'est avec ce nom-là, c'est avec ce nom que Dieu fait alliance avec Israël. Mes amis, quand on pense à la grandeur de Dieu, et nous l'avons aussi chanté tout à l'heure, sa grandeur nous confond. Dieu explique ici qui il est, et en même temps c'est totalement insaisissable. Je suis. Nous avons envie d'ajouter quelque chose après ce « je suis ». Et Jésus le fera. Je suis la lumière du monde. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Le « je suis » d'Exode 3 n'est pas statique, il n'est pas figé. Dieu dit à Moïse d'annoncer aux Israélites, verset 14, « je suis m'a envoyé vers vous ». Ce n'est pas un « je suis » qui est figé, c'est « je suis m'a envoyé vers vous ». Verset 15, « l'Éternel m'envoie vers vous ». Verset 16, « l'Éternel m'est apparu ». Et Dieu fait passer ce message au peuple, « je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte ». Dieu promet la délivrance, nous en avons déjà parlé. Parfois, à cause des excès de notre nature pécheresse, nous voulons distinguer l'être et le faire. En général, on veut privilégier l'être au faire. Ce qui te définit, c'est ce que tu es et non pas ce que tu fais. Nous le disons parce que souvent nous sommes dans l'excès du faire. Nous faisons parfois pour exister. Ça vous dit quelque chose, cette distinction entre être et faire? Oui. Avec Dieu, cette distinction n'a pas lieu d'être. Vous n'avez pas besoin de séparer ce qu'il est et ce qu'il fait. Autant nous, parfois ce que nous faisons, d'ailleurs, peut même être totalement hypocrite et ne pas refléter qui on est. Autant ce que Dieu fait reflète qui il est. Toujours. Il n'y a pas d'hypocrisie à ce niveau-là. Ce que Dieu fait est lié à ce qu'il est. Ce que Dieu fait révèle ce qu'il est. Et c'est entre autres ainsi que nous le connaissons, par ses œuvres. Parce que Dieu a agi, c'est comme ça que nous pouvons le connaître et savoir qui il est. En Exode 3, Dieu répète à Moïse ce qu'il va faire. D'abord, on l'avait vu, au verset 8, il dit « Je suis descendu pour le délivrer ». Au verset 17, « Je vous ferai monter de l'Égypte ». Et devant l'obstination du Pharaon, Dieu emploiera les grands moyens. Verset 20, « J'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle ». Et nous pouvons ajouter le verset 21, « Je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple ». Et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides et non pas les mains libres. Permettez-moi de vous poser la question suivante. Par rapport à ce que je viens de lire, à quoi font référence tous ces verbes d'action qui concernent Dieu? Je suis descendu, je vous ferai monter, j'interviendrai, je frapperai l'Égypte. À quoi font référence tous ces verbes? Qu'est-ce que ces actions révèlent au sujet de Dieu? Alors la parole est à vous, parce que je parle beaucoup là, mais dites-moi. Qu'est-ce que toutes ces actions, le fait de délivrer son peuple, etc., qu'est-ce que ça dit de Dieu? Sa puissance, oui. Quelqu'un veut dire autre chose ? Il se soucie de son peuple, ouais. Pardon ? Son amour. Mmh. Sa souveraineté. Autre chose qui vous vient ? Rien ne lui est impossible, oui. Et je crois, principalement, bien sûr tout cela est vrai, hein, mais principalement qu'il est le Dieu sauveur. Ce qui caractérise Dieu dans son rapport avec son peuple, c'est qu'il est son libérateur. Qu'il est son sauveur. Oui, c'est vrai, c'est avec puissance que Dieu fera sortir son peuple. Et nous aurons l'occasion de le voir à l'œuvre dans les prochains chapitres. Mais l'accent, me semble-t-il, est mis sur son œuvre de rédemption. Dieu se révèle comme étant le Dieu qui sauve, qui libère, qui délivre. Nous ne nous focalisons pas sur ces miracles, mais sur la raison de ces miracles, afin que le peuple soit libre. Dieu est celui qui est, il est celui qui sauve. Vous n'allez pas séparer ce qu'il est et ce qu'il fait. Et je me permets d'exprimer ma gêne lorsque nous disons ou chantons que nous ne louons pas Dieu pour ce qu'il fait, mais plus pour ce qu'il est. Non, louons-le pour ce qu'il fait, parce que précisément ce qu'il fait exprime ce qu'il est. Il est le Dieu sauveur, et donc c'est l'honorer que de le louer pour ce qu'il fait. Ne faisons pas de dissociation. Ne disons pas, voilà, je préfère adorer Dieu pour ce qu'il est plutôt que pour ce qu'il fait. Non. Louons-le à la fois pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Vous ne pouvez pas dissocier les deux. Mais je comprends la pensée qui est derrière. La pensée qui est derrière, c'est de se dire, je m'attache à Dieu juste pour ce qu'il fait pour moi. Je comprends la pensée qui est derrière. Mais ça, c'est notre souci à nous qu'il faut régler. Mais par rapport à Dieu lui-même, on ne dissocie pas le fait qu'il agit et ce qu'il est dans sa nature. Les deux vont ensemble. De nouveau, comment ne pas penser au grand salut que Dieu a accompli en Jésus-Christ ? Dieu a fait et il nous a montré qui il est par ce moyen-là. Comment on sait que Dieu m'aime ? Parce qu'il a fait. Il a envoyé son Fils. Tout comme Dieu a envoyé Moïse pour libérer son peuple, Dieu a envoyé son Fils unique pour libérer son peuple. Là où Moïse s'est montré hésitant, Jésus n'a pas hésité. Et il a obéi jusqu'à la mort sur la croix. Et ce seul sacrifice suffit pour nous donner une raison quotidienne de louer Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait. Alors je sais que j'ai été un peu long, c'est vrai ou pas ? Mais j'arrive à la conclusion. Si nous considérons que Moïse a écrit le livre de l'Exode durant le séjour du peuple dans le désert, ce qui est grandement probable, alors les premiers destinataires sont au moins les Israélites qui étaient avec lui. Et nous avons quelques points communs avec ces Israélites. Eux ont été libérés de l'Égypte, de l'esclavage des Égyptiens. Nous, on a été libérés par rapport au péché. Eux sont dans le désert en route vers la terre promise et nous aussi nous sommes en pèlerinage ici-bas dans l'attente de la nouvelle terre que Dieu nous a promise. Vous voyez un petit peu le parallèle ? Et pendant ce voyage que nous effectuons sur terre, nous avons tout autant besoin que les Israélites de l'époque de savoir qui est le Dieu qui nous a libérés. J'ai dit beaucoup de choses et j'espère que vous avez simplement l'impression que finalement nous n'avons toujours pas fini de connaître celui qui a donné son nom à Moïse, je suis celui qui suis. Le grand libérateur de l'Exode qui s'est révélé à nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et je termine en disant que si Dieu se révèle, si Dieu se fait connaître, ne l'oublions pas, c'est pour être en relation avec nous. Dieu ne fait pas juste une révélation pour dire « voilà qui je suis », mais c'est afin de pouvoir entrer en relation avec nous. N'oublions pas que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et de Moïse et de Jésus veut aussi être notre Dieu. Un Dieu de relation. Quelle est alors ta réponse ce matin ? Veux-tu être en relation avec le Dieu d'Exode 3, qui est aussi le Dieu de toute la Bible ? Veux-tu continuer à le connaître, ce Dieu ? Veux-tu continuer à le louer pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait ? Dieu a parlé par sa parole, c'est maintenant à toi de répondre. Amen. Et je veux justement vous laisser cette occasion de répondre à Dieu directement, par rapport à là où il vous a interpellé, peut-être de manière différente selon les uns et les autres. Mais c'est Dieu qui s'est révélé, c'est sûr, il veut être en relation avec toi. Qu'est-ce que tu lui réponds ? Nous avons vu ce matin que lorsque ton peuple souffre, tu n'es pas indifférent. Tu as vu, tu as entendu et tu connais ces douleurs. C'est ce qui s'est passé au temps de l'Exode, c'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Mais c'est aussi ce qui s'est passé pour nous. Oui, tu as vu notre situation. Tu as vu dans quel embarras nous nous trouvions, empêtrés dans notre péché, sans moyen de pouvoir en sortir. Tu as eu compassion de nous. Tu nous as tendu la main. Tu nous as donné ton Fils. Ton Fils qui est mort à notre place pour nos péchés, afin que nous puissions être libérés de cet esclavage pour vivre une vie totalement nouvelle. Et non seulement cela, c'est ce que nous vivons déjà présentement, mais tu nous promets aussi une terre nouvelle. Cette terre promise que nous attendons tant. Et nous te demandons, Seigneur, que dans ce moment d'attente que nous vivons encore, étant dans cette vie, étant ici-bas, accorde-nous encore de regarder à toi et de faire confiance au Dieu qui nous a libérés. Parce que assurément, si tu nous as libérés de l'esclavage du péché, tu ne vas pas t'arrêter là. Et nous attendons notre ultime libération du péché et de ses conséquences. Merci d'être ce Dieu qui s'est révélé à Moïse, qui s'est révélé à nous alors que nous avons lu ce texte ce matin. Et parle-nous encore, Seigneur. Montre-nous encore, Seigneur, que nous avons tant à savoir à ton sujet. Et accorde-nous encore, comme le dit le psalmiste, de goûter combien tu es bon. Au nom de Jésus. Amen.